Une bien mauvaise note sur le bulletin en climat pour le gouvernement. La Convention citoyenne pour le climat s'est achevée aujourd'hui. Les 150 participants ont noté le travail du gouvernement et les notes, vous l'avez compris, sont très en dessous de la moyenne. La Convention citoyenne pour le climat avait été chargée par Emmanuel Macron de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce soir, les participants sont déçus. Bonsoir Célia Quilleret.
Bonsoir Frédéric.
Il s'agissait d'un exercice de démocratie participative inédit jusqu'ici en France.
Oui. C'était un pari et sans indulgence, les citoyens ont dit clairement ce qu'ils pensaient du projet de loi du gouvernement, thème par thème. Les notes sont sévères, pas plus de 3 sur 10 dans le domaine des transports ou du logement. Le gouvernement n'a quasiment jamais la moyenne. Thierry a lancé les hostilités en premier.
Le résultat, c'est que le gouvernement a pris d'une manière un peu méprisante nos mesures en les délayant, en donnant l'impression que effectivement, c'est gentil, mais on n'en a pas grand-chose à y faire. Ça semblerait être juste une petite fumisterie. Ça détermine bien notre déception et notre mécontentement.
Autre question, le projet de loi pourra-t-il permettre de réduire de 40% les gaz à effet de serre? La note est inférieure à 3 sur 10. Muriel n'est pas étonnée.
On nous écoute pas finalement. On a totalement réduit en fait notre travail. C'est vraiment dommage. Dommage que les politiques se laissent happer en fait par la force des lobbies.
La seule note satisfaisante, 6 sur 10, concerne le référendum promis pour modifier l'article 1 de la Constitution. Et puis sur la forme, les citoyens comme Pierre ou Valérie plébiscitent l'existence même de cette convention.
Pour moi, elle est très utile. À la lutte contre le changement climatique, c'est un premier aiguillon. Donc je me dis que c'est un bon début. Nous sommes des soldats supplémentaires à pouvoir lutter contre ce changement climatique.
On a ouvert une petite brèche et j'espère que ce petit ruisseau va devenir un grand océan.
Voilà un message d'espoir. Certains citoyens espèrent que le gouvernement sera repêché à l'oral à l'Assemblée au moment du débat parlementaire. D'autres ont d'ailleurs signé ce soir un serment des citoyens pour poursuivre ce combat climatique.
Et d'autres informations à retrouver sur notre site franceinter.fr avec votre article, Célia Quilleret. Bilan amer pour la Convention citoyenne pour le climat. Une agression qui fait vivement réagir la classe politique et l'Élysée. Le président, la présidence de la République veut que les auteurs de l'agression du reportage porteur photo à Reims soit interpellé au plus vite. L'Élysée a appelé la rédaction du quotidien L'Union pour exprimer son émotion, sa sympathie. Hier après-midi, un reporter photo a été grièvement blessé à la tête. Le journaliste âgé de 65 ans couvrait des regroupements de jeunes. Il a été retrouvé au sol. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Sur place à Reims, on retrouve Rémi Brancato. Bonsoir Rémi. Le quartier où a eu lieu Bonsoir. L'agression était en proie à des tensions ces derniers jours.
Oui, dans ce quartier de Croix-Rouge où tout est calme. Ce soir, deux rixes entre différents groupes de jeunes se sont déroulées cette semaine pour des motifs inconnus, selon l'adjoint au maire de Reims en charge de la sécurité. Et samedi, hier, les policiers ont observé des attroupements de jeunes armés de barres de fer ou de battes de baseball sur les images de vidéosurveillance. Selon l'élu, la police est donc intervenue pour les disperser, éviter une nouvelle rixe peu après 14 heures. Une journaliste de l'Union est arrivée ensuite sur place, près de la médiathèque, dans une voiture banalisée. Et son collègue, Christian Lantenois, l'a suivi quelques minutes plus tard. Ce photographe aguerri est arrivé à bord d'un véhicule qui portait, lui, le logo du journal. Il s'est tenu en retrait. La journaliste n'a pas vu ce qui lui est arrivé précisément, mais elle l'a retrouvé grièvement blessé à la tête, près de son véhicule, encore conscient. Il a ensuite été placé dans le coma en réanimation à l'hôpital. Son pronostic vital est toujours engagé ce soir et les enquêteurs tentent d'identifier d'éventuels auteurs des violences sur les images des caméras de vidéosurveillance.
Rémi Brancato en direct de Reims. C'est une décision ressentie comme un coup de poing de l'Allemagne et qui mobilise plusieurs ministres à Paris. Berlin classe le département de la Moselle en zone Covid à risque maximal et envisage de fermer sa frontière. Olivier Véran, ministre de la Santé, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, vont publier un communiqué rédigé en allemand et en français pour éviter une fermeture brutale de cette frontière. Pour les 16 000 travailleurs frontaliers de Moselle, Clément Beaune propose par exemple des tests antigéniques qui ne soient pas obligatoires chaque jour, mais plutôt tous les deux jours. Quoi qu'il en soit, à partir d'après-demain mardi, la Moselle sera considérée par l'Allemagne comme une zone rouge écarlate, catégorie la plus élevée dans l'échelle de risque. Berlin, Ludovic Piétenu.
La Moselle va donc venir s'ajouter dans la nuit de lundi à mardi aux 14 pays ou régions que l'Allemagne considère à risque à cause des variants. La condition pour entrer, c'est de présenter un test négatif de moins de 48 heures, pas besoin d'un PCR, un test rapide suffit. La frontière n'est pas fermée, insistent les autorités allemandes. Il n'y aura pas de barrage, de police, de contrôle fixe comme les États allemands de Bavière et de Saxe en ont eux installé il y a 2 semaines avec l'Autriche et la République tchèque. Mais pas de bus et pas de train. Traitement légèrement différencié avec la France car les Länder frontaliers avec la Moselle, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat ne l'ont pas souhaité. Ils discutent en coopération étroite avec les départements et la région Grand Est, avec les députés et le secrétaire d'État Clément Beaune au sein d'une structure, le Comité pour la coopération transfrontalière, qui se réunit ce lundi avec pour objectif de limiter le plus possible l'impact pour les populations locales, travailleurs transfrontaliers, chauffeurs routiers et éviter, si possible, les longues files d'attente. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et concernant maintenant la campagne de vaccination, un quatrième vaccin pourrait être autorisé rapidement en France après Pfizer, Moderna et AstraZeneca. L'Union européenne devrait dans les prochains jours approuver le vaccin Johnson & Johnson. Selon Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, le vaccin sera sans doute distribué en France dans un mois.
Oui, ce sera fait début mars puisque l'Agence du médicament européenne est en train de passer en revue toutes les informations que lui a communiquées Johnson & Johnson pour pouvoir mettre sur le marché ce vaccin.
Et il arrivera
donc c'est en bonne voie. Il devrait arriver fin mars, début avril, puisqu'il y a un délai pour la production des doses. C'est une très bonne nouvelle parce que ce vaccin nécessite effectivement une seule dose et pas 2 vaccinations préliminaires. En revanche, il est possible qu'il nécessite des rappels, on ne le sait pas encore. Il faut prendre en compte le fait que nous n'avons pas nécessairement un recul très long pour savoir combien de temps l'immunité est maintenue.
Agnès Pannier-Runacher chez nos confrères de France 3. Et malgré tout, dans ce contexte de flambée épidémique, une quarantaine de députés de tous bords politiques demandent au Premier ministre Jean Castex d'étudier la réouverture des restaurants fin mars à l'heure du déjeuner. Tous les salariés n'ont pas de restaurant d'entreprise. Laurent Garcia, député Modem de Meurthe-et-Moselle.
Dans notre pays de la gastronomie, on ne va pas flinguer l'industrie hôtelière, l'industrie de la restauration ad vitam aeternam. Il faut bien qu'on en sorte. Je pense que raisonnablement, il faut réouvrir d'abord dans les départements où le virus a une propagation, une circulation moindre. Il faut y aller progressivement par étapes. Le protocole sanitaire doit être très strict avec un espacement particulier. Il y a eu des investissements de la part des restaurateurs pour mettre des vitres de plexiglas entre les tables. Les scientifiques le disent régulièrement, entre les variants qui arrivent régulièrement et puis le virus, malheureusement, il a sa vie propre et donc il mute au gré des saisons, au gré de tout. Apprenons à vivre avec.
Laurent Garcia avec Jérôme Jadot. À l'étranger, journée noire en Birmanie. La police birmane a tiré sur les manifestants à Rangoon et dans plusieurs villes du pays. 18 personnes au moins ont été tuées. Il y a également de nombreux blessés. Carole Izou, notre correspondante en Thaïlande, a pu joindre des manifestants à Rangoon.
Des vidéos relayées par les militants sur les réseaux sociaux montrent les policiers et les soldats tirer sur la foule dès les premières heures de la matinée dans plusieurs villes de Birmanie, à Rangoon, à Mandalay ou encore dans le sud, à Dawei et dans la petite ville de Miyek, où des policiers visiblement à cran ont poursuivi des manifestants jusque dans les maisons où ils s'étaient réfugiés. Un groupe d'hommes en uniforme est ensuite montré en train de charger un corps dans un camion de police et de répandre du sable sur le sang versé afin de dissimuler leur action. Des bilans encore non officiels de médias birmans font état d'une 20aine de morts. Des ambulances ont été visées. À Mandalay, une femme d'une 40aine d'années en tenue traditionnelle a été abattue en pleine rue vers 18h. Selon plusieurs témoins, elle ne manifestait pas, mais elle était accusée d'avoir brisé le couvre-feu. Une autre serait morte d'une crise cardiaque à Rangoon sous l'effet d'une grenade paralysante. Des armes largement utilisées aujourd'hui, dont la déflagration vise à priver momentanément les manifestants de leurs facultés. La junte militaire birmane semble vouloir pousser à son paroxysme la politique de la terreur aujourd'hui, alors que la détention provisoire de la charismatique chef du gouvernement élu, Aung San Suu Kyi, doit prendre fin demain. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
La cérémonie des Golden Globes ce soir à Los Angeles, un rendez-vous sans public mais en direct sur Internet et on suivra avec beaucoup d'attention le parcours des Français, plusieurs chances de récompense cette année, notamment pour Florian Zeller qui a adapté pour le cinéma sa pièce à succès Le Père avec Anthony Hopkins. Gary Oldman et le Français Tahar Rahim nommé dans la catégorie meilleurs acteurs dans un rôle dramatique. Tahar Rahim dont on parle aussi beaucoup pour les prochains Oscars, Corinne Pellissier.
Sa carrière américaine était déjà bien lancée. Tahar Rahim, repéré à Sundance en 2010 pour le film Un prophète de Jacques Audiard, puis réclamé au cinéma, à la télévision, aussi à l'aise en agent du FBI dont la série à succès de Looming Tower que dans la peau du cerveau présumé des attentats du 11 septembre 2001, dont le nouveau film de Kevin MacDonald, qui lui vaut aujourd'hui sa première nomination aux Golden Globes. All my time here, I've been told you are guilty. L'histoire de Mohamed Oud Slahi, emprisonné de manière illégale pendant 15 ans dans les geôles de Guantanamo, battu, torturé, humilié, le rôle le plus intense qu'ait jamais connu Tahar Rahim.
J'ai eu besoin d'expérimenter ça, physiquement. Par respect pour Mohamed Oud et les gens qui ont traversé ça. Donc j'ai porté les menottes pour de vrai, j'ai été dans des cellules gelées. J'ai aussi expérimenté le waterboarding, là. Et c'est très intéressant en tant qu'acteur. Alors oui, moi je savais que j'allais à l'hôtel après. Et puis on faisait en sorte de jamais me blesser. En tout cas, il fallait que ce soit de l'expérience pure.
En lice dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle dramatique, Tahar Rahim sera fixé dans quelques jours sur une éventuelle nomination aussi aux Oscars, perçu déjà comme l'un des Français qui compte aujourd'hui à Hollywood.
Voilà, sacre possible ce soir de Tahar Rahim lors des Golden Globes à Los Angeles. (Rire) 19h13 sur France Inter, à la page sport de cette édition. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
Avec d'abord la Ligue 1 de football, toujours aussi indécise en tête du classement. Et le leader Lille vient de terminer son match face à Strasbourg. Je crois même que Strasbourg a gagné.
Non, c'est nul. Les Lillois étaient sous pression après les succès de leurs poursuivants. Le PSG vainqueur hier à Dijon 4-0 et Monaco qui a battu Brest cet après-midi 2-0. Bonsoir François Launay. François Launay en direct du Stade Clermont-Auvergne. Alors, Lille concède le nul après avoir longtemps été mené au score et a perdu des points sur ses concurrents.
Oui, on peut dire que c'est deux points de perdu ce soir pour le leader du championnat, puisque Lille a été tenu en échec un but partout sur sa pelouse par Strasbourg. Mais au final, les Nordistes ne s'en sortent pas si mal que ça. Et pourquoi ? Parce que bien c'est Strasbourg qui a longtemps mené au score en ouvrant la marque à la 36e minute grâce à un joli but de Ludovic Ajorc. Lille a poussé, Lille a essayé de revenir et Lille a finalement réussi à trouver la faille à la 87e minute grâce à une reprise de la tête de José Fonte, le capitaine nordiste. Mais le LOSC a surtout évité le pire à la toute dernière seconde. On a même envie de dire que c'est Mike Maignan, un l'ange gardien du LOSC, qui s'est montré décisif en repoussant une frappe de Diallo qui était tout seul devant lui. Strasbourg a vu la balle de match clairement en cette partie, mais la dernière seconde, le gardien lillois a repoussé la tentative de l'attaquant alsacien et a permis à Lille de décrocher ce point du nul qui lui permet de rester quoi qu'il arrive leader à l'issue de cette 27e journée, même si évidemment l'écart se resserre fortement autour du club nordiste.
Effectivement, Lille ne compte 2 points d'avance sur le PSG et 4 points sur Lyon et Monaco.
Et ce soir, un des classiques de la saison, le duel des Olympiques entre l'OM qui reçoit l'Olympique Lyonnais.
Oui, l'OM en pleine restructuration. Vendredi soir, le propriétaire du club, l'Américain Frank McCourt, a nommé un nouveau président, Pablo Longoria, qui remplace Jacques-Henri Hérault. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes en direct de Marseille. Alors, Pablo Longoria, il est quasiment inconnu du grand public. Il est espagnol, jeune, mais il a déjà beaucoup bourlingué en Europe.
34 ans, Vincent, c'est le plus jeune président de l'OM depuis plus d'un siècle, le plus jeune de Ligue 1, bien sûr, plus jeune même que Steve Mandanda, le gardien et capitaine marseillais, qui a 35 ans, imaginez. L'Espagnol est un recruteur de formation, vous l'avez dit, il a bourlingué, il est passé par de grands clubs, comme la Juventus Turin en Italie, il est arrivé il y a 7 mois à Marseille, cet été comme directeur sportif. En Espagne, on le surnomme El Niño de la Play, l'enfant de la PlayStation, car il adore les jeux de simulation, mais c'est surtout un fou de foot qui avait planté, l'histoire le raconte, 4 antennes paraboliques sur le toit de sa maison à Oviedo en Espagne pour capter un maximum de matchs, vous imaginez, un vrai connaisseur en tout cas du foot, contrairement à son prédécesseur Jacques-Henri Hérault, qui ne connaissait pas le ballon, c'est ce que m'ont dit en tout cas plusieurs supporters marseillais cet après-midi.
Alors dans les jours qui viennent, Alexandre Vaux, sont attendus à Marseille Frank McCourt et le nouvel entraîneur de l'OM, l'Argentin Roré Sampaoli.
Oui, c'est McCourt hein, qui l'a annoncé lui-même dès vendredi soir pour un nouveau départ. C'est en tout cas ce qu'espère le propriétaire américain de l'OM. Très attendu dans les prochains jours, voire prochaines heures. McCourt qui vient rencontrer des élus, des dirigeants, les supporters, bien sûr. Ça devrait se faire ici au stade Vélodrome. Et effectivement, il se murmure même que sa venue pourrait être couplée à celle du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. En attendant, l'équipe est toujours entraînée, on le rappelle, par le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, qui sera encore sur le banc ce soir et mercredi, normalement, à Lille.
Rapidement, Alexandre, il y a des enjeux sportifs importants ce soir pour les deux équipes.
Oui, Marseille 8e qui doit gagner pour rester en course pour une place européenne en fin de saison. Et surtout, Lyon, on parlait de Lille tout à l'heure tenu en échec, qui est 3e de Ligue 1, la lutte pour le titre au complet ce soir et qui peut repasser devant le PSG, redevenir 2e et revenir à un petit point du leader lillois. Mais attention Vincent, c'est un Olympico entre Marseille et Lyon et peut toujours tout se passer.
Merci Alexandre, vous en direct de Marseille, coup d'envoi à 21h.
En rugby, un 15 de France en pleine tourmente attend de savoir quand il affrontera l'Écosse dans le tournoi destination.
Et la date du mardi 9 mars avait été avancée, c'est maintenant la date du vendredi 26 mars qui semble privilégiée. Après ces deux victoires face à l'Italie et l'Irlande, les Bleus auraient dû jouer cet après-midi face aux Écossais. Match reporté après l'apparition d'un cluster, 16 membres du 15 de France, on le rappelle, 12 joueurs et 4 membres de l'encadrement ont été testés positifs à la Covid. Une enquête a été lancée par la fédération pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Et les autres équipes du tournoi, quel est leur protocole sanitaire? Réponse avec Fanny Lechevestrier.
Eh bien, comme pour le 15 de France, tout repose sur le principe de la bulle sanitaire avec un Covid manager chargé de faire appliquer le protocole dans chaque équipe. Une bulle toutefois limitée puisque comme les Bleus, les autres nations libèrent elles aussi leurs joueurs pour passer quelques jours chez eux durant les 7 semaines que dure le tournoi. Les internationaux écossais, gallois, italiens et irlandais retournent même en club pour disputer des matchs de championnat. Ce sera encore le cas par exemple le week-end prochain pour une dizaine d'écossais. En revanche, le moindre écart est immédiatement puni et pas besoin d'une longue enquête pour cela. L'ailier vedette des Gallois, Josh Adams, peut en témoigner, exclu les deux premiers matchs pour avoir brisé la bulle en prenant part à un repas familial. Notez également que le comité des Six Nations, l'organisateur de la compétition, a aussi la possibilité de sanctionner financièrement une fédération en cas de manquement grave avéré au protocole. C'est ce qu'indiquait ce midi sur France Inter la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Et puis Vincent, un mois après le vainqueur, Yannick Bestaven, Alexia Barrier a achevé aujourd'hui sans Vendée Globe ce matin même.
Ah, oui, après 100 jours de mer à la barre du plus ancien bateau de la flotte, elle se classe 24e et avant-dernière de la course, Alexia Barrier qui a vécu une fin de parcours très pénible et Massarango.
Avant de poser pied à terre sur le ponton du Vendée Globe, Alexia Barrier s'agenouille pour embrasser une dernière fois Pingouin, son imoca âgé de 22 ans.
Merci le Pingouin. Je vais me baisser, lui faire un bisou, même si ça fait mal au dos.
C'est son dos, en effet, qui l'a fait souffrir, car une semaine avant l'arrivée, la navigatrice a fait une très mauvaise chute à bord.
Je ne pouvais plus du tout marcher, donc je me déplaçais sur le pont en rampant, je ne pouvais pas tourner les manivelles, je ne pouvais pas dormir, pas monter dans la banette. Donc c'est juste la force du mental, finalement, qui fait le job.
Les accolades avec ses proches sont donc prudentes. Le médecin de la course lui tend une ceinture de maintien et une béquille. Puis Alexia Barrier part à l'hôpital faire des examens. Bilan, pas de fracture, mais beaucoup de repos prescrit. Sauf que la navigatrice, décidément insatiable, a déjà d'autres projets.
Reprendre la prépa physique, aller faire du motafoil, faire du shopping, acheter un imoca, préparer mon trophée Jules Verne pour après mon deuxième Vendée Globe.
Et pour son prochain Vendée Globe, justement, Alexia Barrier a déjà une petite idée pour son futur compagnon.
Quand le premier a franchi la ligne d'arrivée, j'ai regardé les bateaux arriver, je me suis dit « Tiens, je sais quel bateau je veux
!» Le dernier navigateur encore en mer dans ce Vendée Globe, le Finlandais Harry Uusela, qui devrait rallier les Sables d'Odon le week-end prochain. Et puis Mathieu Fèvre a confirmé aujourd'hui sa belle forme du moment. Le skieur français s'est imposé dans le slalom géant de Coupe du Monde à Bansko, une semaine après ses deux médailles d'or décrochées au championnat du monde.
On va s'intéresser maintenant à un dossier qui empoisonne littéralement le sport. On retourne 7 ans en arrière, 2014, Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en Russie. Ski de fond, épreuve reine du 50 km, le français Robin Duvillard termine 6e, la Russie réalise le triplé. Depuis, plusieurs rapports internationaux ont mis en évidence une situation de dopage organisée en Russie pour ces JO. Robin Duvillard ne saura vraiment jamais à quelle place il a terminé la course. Robin Duvillard se confie à Anthony Kermen. Cette course lui laisse un énorme sentiment de frustration. C'est le long format de ce soir.
Ce 23 février 2014, sur le 50 km, l'épreuve reine qui clôt les Jeux, Robin Duvillard a des jambes de feu. Il termine finalement 6e alors que les Russes réalisent un triplé.
Dans la dernière bosse, j'ai l'impression d'être un cadet parmi des seniors. Et moi, je suis un cadet et je me dis, mais je me fais pulvériser. Donc il y a un petit moment, quelques minutes, où je suis un peu déçu en me disant... T'as pas été très bon, quoi.
Le fondeur du Vercors finit par savourer une performance de choix, mais rapidement.
Je me rappellerai toujours de la cérémonie de clôture où j'ai Julien Liseroux qui est à côté de moi et on voit les trois Russes sur le podium au milieu du stade et il me dit, bon, bah, s'il y avait un peu de justice, c'est toi qui devrais être là-bas et j'avais un petit goût de, un petit peu d'amertume. Les soupçons, ils sont bien en amont à partir du moment où Sochi est attribué. Petit à petit, d'année en année, on voit bien qu'en Russie, il y a quand même un sentiment nationaliste fort et qu'il faut prouver au monde entier que les Russes sont les meilleurs.
Tous les athlètes devant lui ont à un moment ou à un autre fait face à des soupçons de dopage. Deux des médaillés russes, dont le champion olympique Legov, ont même été suspendus à vie. Sanction finalement annulée faute de preuves par le tribunal arbitral du sport.
En fait, à un moment, l'athlète, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais moi j'ai pissé dans le bocal. C'est pas moi qui suis allé changer mon bocal la nuit, ça, ça. Moi j'étais clean. Plus c'est gros, plus ça passe. Personnellement, j'ai pas vraiment vu de sanction. Je suis désolé, mais moi si demain j'ai le droit d'aller faire les JO, sauf qu'il y a juste pas écrit France, la bannière neutre, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On s'en fout.
Cette année, les échantillons de Sochi seront à nouveau étudiés, mais cela ne changera pas grand chose pour Robin Duvillard.
Quoi que je fasse, à chaque fois que je regarderai la course, je finirai toujours sixième sur les images. Si demain c'est vraiment avéré, ce qui semble être le cas pour au moins certains d'entre eux, oui, on m'aura volé des choses, notamment les émotions, même si un jour le classement évolue, tout me sera pas réattribué.
Retraité en 2019, Robin Duvillard garde surtout des Jeux de Sochi la joie d'une médaille de bronze en relais.
Quand je me retourne sur ma carrière, que je vois ce que j'ai pu accomplir, alors à mon niveau, hein, c'est sûr que... Il y a beaucoup de carrières qui sont bien plus riches que la mienne. Mais voilà, j'ai fait ce qu'un petit gars de Villard-de-Lans imaginait même pas faire le dixième de tout ce que j'ai fait.
Robin Duvillard continue de skier pour le plaisir sur le plateau du Vercors où il a ouvert un hôtel avec une autre championne dauphinoise, la biathlète Marie-Dorin Haber.
Anthony Kermen de France Bleu Isère.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine avec notre agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient, avec d'abord un agenda judiciaire très politique et le jugement demain, lundi, de Nicolas Sarkozy. Le tribunal de Paris se prononce dans l'affaire dite des écoutes sur le sort de l'ancien président. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont été requis contre Nicolas Sarkozy. Autre rendez-vous au tribunal jeudi prochain. Édouard Balladur connaîtra son sort devant la Cour de justice de la République dans le volet ministériel de l'affaire Karachi. Corinne Audouin.
Pour Édouard Balladur, 91 ans, et François Léotard, 78 ans, l'enjeu de ce jugement, ce n'est plus leur carrière politique, mais plutôt leur honneur. Contre l'ancien Premier ministre, l'accusation demande 1 an de prison avec sursis. Le parquet estime qu'Édouard Balladur connaissait l'origine frauduleuse des fonds qui ont financé sa campagne présidentielle en 95. En l'occurrence, 10 millions de francs, possiblement issus de rétrocommissions sur des contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Contre son ex-ministre de la Défense, François Léotard, l'accusation réclame le double, 2 ans de prison avec sursis, pour son implication dans la mise en place d'un réseau d'intermédiaires véreux. À la barre, les deux hommes ont fermement protesté, avoir fait quoi que ce soit d'illégal. La Défense a plaidé la relaxe, en soulignant l'absence de preuves matérielles directes reliant l'argent des rétrocommissions au fonds versé sur le compte de campagne d'Édouard Balladur.
Sur l'agenda politique, 2 rendez-vous à noter. Emmanuel Macron sera demain à Stain, en Seine-Saint-Denis, dans le cadre du plan Un jeune, une solution et l'engagement des entreprises en faveur des jeunes. Et puis mardi, la réforme très critiquée de l'assurance chômage. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit une dernière fois les partenaires sociaux pour leur présenter une version adaptée à la crise sanitaire. Les temps forts de l'actualité à l'étranger, c'est la visite du pape François en Irak, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie. Le pape en Irak, c'est vendredi. Et puis également à l'agenda chinois, début vendredi de la session annuelle du Parlement, l'un des 2 grands rendez-vous politiques de l'année. 3000 délégués vaccinés, dépistés, se réunissent au Palais du Peuple, place Tiananmen, un rendez-vous politique mais également économique, Dominique André.
En 2020, la Chine a maintenu une croissance positive à 2,3 grâce à une gestion stricte de l'épidémie et à des mesures de soutien sans précédent allouées aux provinces. Elles ont permis notamment de financer de nouvelles infrastructures comme la 5G ou la rénovation des villes. Durant cette session parlementaire, les dirigeants communistes devraient décider s'ils revoient à la baisse ces mesures afin de réduire le déficit public et réaliser l'objectif affiché d'un développement sain et durable. Pour l'atteindre, la Chine veut s'appuyer sur la stratégie de double circulation déjà évoquée par Xi Jinping, qui combine à la fois le développement du marché intérieur et l'indépendance technologique de la Chine, ainsi que la poursuite des exportations. La Chine va-t-elle annoncer une prévision de son taux de croissance? C'est en débat. L'an dernier, elle ne l'a pas fait. Il faudra attendre le discours du Premier ministre vendredi prochain pour le savoir. Des décisions pourraient être prises aussi sur un report de l'âge de la retraite face au vieillissement de la population chinoise. Un projet impopulaire. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et puis, loin de la Chine, l'événement culturel sur France Inter, c'est la journée spéciale Serge Gainsbourg, mardi. 30 ans après sa disparition, France Inter rend hommage à Serge Gainsbourg à travers différentes émissions. Boomerang, Augustin Trapenard recevra Charlotte Gainsbourg. Affaires sensibles également reviendra sur la Marseillaise de Gainsbourg. Et puis le soir, un concert inédit des reprises d'albums cultes depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec Alex Baupin et le Philharmonique de Radio France. Serge Gainsbourg à l'honneur sur France Inter, c'est mardi. Au générique de cette édition, Grégory Wallon et Benjamin Troncin en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Swad Bellani et Anna Péan. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal.